recevons depuis les studios de Radio Galaxy, mais par téléphone, Aude Morvan, qui est directrice communication de l'ASEI. Bonjour Aude.
Bonjour, merci de me recevoir.
Oh, mais c'est avec plaisir. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de l'ASEI ?
L'ASEI, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui a maintenant 70 ans, qui s'occupe d'accompagner les personnes handicapées dans leur quotidien. On est une association qui accompagne près de 10 000 personnes et nous sommes à peu près 3 000 salariés, hein, donc c'est quand même une grosse association. Nous gérons du coup des établissements, effectivement des établissements pour enfants, pour adultes, pour personnes âgées. On a aujourd'hui à peu près 110 établissements répartis sur toute l'Occitanie, un tout petit peu de Nouvelle-Aquitaine puisqu'on est présent à Hendaye et on a quelques établissements parisiens, mais ça c'est voilà notre cœur, on va dire, c'est vraiment l'Occitanie avec historiquement un siège et les premiers établissements qui sont à Ramonville-Saint-Agne, donc en banlieue de Toulouse, on va dire. Donc vous pouvez découvrir toute l'activité de l'association, on va dire, sur asei.asso.fr, c'est notre site internet. Mais on a aussi une page Facebook que vous trouverez en tapant ASEI dans le moteur de recherche de Facebook, où là on montre plutôt la vie des établissements, voir un peu ce qui s'y passe, parce qu'effectivement, souvent c'est des établissements, on a l'impression qu'ils sont fermés, mais non, ils sont très ouverts. Et nos résidents font plein de choses très intéressantes. Et on a aussi une page LinkedIn sur laquelle là on publie plus effectivement des offres d'emploi, puisqu'on est quand même un gros acteur de l'économie sociale et solidaire. On a souvent des besoins de recrutement. Donc sur les différentes facettes de nos métiers, que ce soit professionnels ou personnes handicapées, on essaie d'être un peu partout sur les réseaux. Vous pouvez nous joindre au 05 62 19 30 30. Vous tomberez sur le siège et on vous réorientera si vous avez une question vers les bons services compétents.
Depuis mars 2019, le droit de vote pour les personnes en situation de handicap mental est enfin rendu possible. Ainsi, aux élections municipales de mars prochain, 2200 adultes accompagnés par l'ASEI seront en capacité de voter. Alors, comment l'association les accompagne-t-elle pour réaliser un bon vote ? Vous proposez, je pense, des ateliers, des cafés citoyens, etc. etc.
La première chose, c'est déjà de leur expliquer qu'elles ont le droit, aujourd'hui, d'exercer l'exercice de la citoyenneté et elles ont le droit de voter. C'est très important parce que depuis, effectivement, maintenant 14 ans, elles sont considérées comme des citoyens à part entière et jusqu'à présent, elles ne pouvaient pas voter. Donc, en mars 2019, il y a cette loi qui leur permet, et même aux personnes déficientes mentales, de voter. On a commencé avec les élections européennes. Mais alors, les élections européennes, déjà que ce n'est pas si lisible pour tout un chacun, alors expliquer les enjeux et l'importance de l'Europe, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de votants. Donc cette année, pour les municipales, on s'est dit, on est quand même, des établissements et nos résidents sont souvent dans des communes rurales, c'est important qu'ils puissent s'exprimer. Donc depuis décembre, on les accompagne. Ça passe par quoi ? Déjà, un truc très pratique, c'est-à-dire que leur dire qu'elles ont le droit de voter et que du coup, il faut s'inscrire sur des listes. Donc, on fait les démarches pour elles, on fait les démarches de manière à ce qu'elles aient une carte d'électeur, tout simplement, et on leur explique ce que c'est qu'une élection au travers de, effectivement, alors ça dépend des établissements, on appelle ça des cafés de citoyens ou des temps de parole. Et donc, on prévoit, on va dire, on a prévu en général entre janvier et mars, plusieurs petits ateliers. C'est quoi un maire ? Comment je vote ? À quoi ça va servir mon vote? Comment je fais techniquement pour aller le dimanche au bureau de vote? Parce qu'on a des personnes qui sont peu mobiles, donc effectivement, il faut expliquer aussi comment on fait pour rentrer dans un isoloir, comment on met l'enveloppe dans l'urne. Donc on a un accompagnement qui, on va dire, un petit peu pratique et technique sur les modalités de vote. Et puis après, on rentre un peu dans le sujet du plus concret de à quoi sert un maire, comment je fais pour voter, comment je choisis tel ou tel candidat. Alors évidemment, nous, on est apolitique, on est neutre, donc on leur dit, il y a des programmes. Voilà. Les programmes, on essaie sur certains, du moins parce qu'on ne peut pas le faire sur tous, enfin sur tous les établissements, j'entends, on essaie de leur dire, on va les traduire en FALC. Le FALC, en gros, c'est un langage simplifié, de manière à ce qu'ils puissent comprendre les différentes idées qui peuvent émerger des différents programmes. Alors, on a aussi mobilisé et sensibilisé les candidats aux municipales dans les communes où on avait des résidents en leur disant, vous savez, aujourd'hui, ces personnes en situation de déficience, elles peuvent voter. C'est de votre devoir en tant que prochain élu de leur rendre accessibles vos programmes. Et on a des maires, et des futurs candidats qui se sont portés volontaires pour venir expliquer c'est quoi une mairie, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de les faire participer un maximum en confiance avec leurs mots à ce qu'est le vote aujourd'hui. Et on avoue qu'effectivement, là, sur les municipales qui arrivent, on a quand même une vraie émulation parce que bon, la mairie, c'est quand même l'échelon du vote le plus... c'est tout proche. Donc, ils ont des tas de questions parce qu'ils vivent dans la commune et ils se disent « Ah, bah voilà, pourquoi c'est fait comme ça ?» etc. Donc, ils ont des questions. Et je tiens à préciser qu'ils n'ont pas que des questions liées à leur situation de handicap. Ils s'intéressent beaucoup aux problématiques environnementales, aux problématiques de l'école. Donc, ils ont des choses à exprimer. Et enfin, ils vont pouvoir le faire. Donc, on est très contents pour eux et pour la démocratie au sens large. Ils sont très réceptifs, ils s'interrogent même pourquoi maintenant, parce qu'on est du coup sur des publics de gens qui peuvent avoir 40, 50 ans, qui ont vu leurs parents, leur entourage aller voter et parfois les accompagner et se disent mais pourquoi maintenant? Pourquoi on n'a pas eu le droit de voter avant? Alors c'est vrai qu'on a aussi tout un travail pour expliquer les évolutions de perception, de politique publique, hein, c'est pas si simple de répondre à cette question, mais en tout cas ils sont très fiers. Et c'est vrai que là, on commence à recevoir les cartes d'électeurs et ils sont heureux d'avoir une carte d'électeur comme tout le monde et d'aller voter. Donc, ils sont même très investis. Alors là, je vous parle effectivement de foyers, d'établissements où on est dans des situations de handicap ou de déficience où il y a une grande interaction avec les publics, etc. On a aussi malheureusement des personnes qui sont plus à distance parce que, moins avec des communications non verbales et autres. Mais on peut constater en tout cas qu'il y a vraiment une envie, un désir d'être acteur de sa citoyenneté. On a d'ailleurs plusieurs personnes qui ont eu envie de se porter candidate. Ça, c'était un peu la surprise. Alors bon, ça ne s'est pas forcément fait parce que ce n'est pas parce qu'on vote qu'on peut être élu. Donc on parle d'un point de vue administratif, il y en a eu des avis du juge des tutelles sur certaines personnes. Mais voilà, on voit qu'elles sont très investies. Alors c'est vrai qu'on est souvent dans des petites communes, hein, donc les établissements qu'on a, globalement, ils sont une part entière de la vie de la commune. Donc je pense qu'effectivement, il y avait une vraie envie en tout cas de s'impliquer.
Sans changer de sujet, on rappelle que dans votre structure, la ZEI, il y a plus de 10% des salariés qui sont reconnus travailleurs handicapés. Donc vous, les premiers, vous travaillez sur ce sujet quand même.
Oui, c'est assez logique, hein, j'ai envie de dire qu'on va viser plus même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises de plus de 20 salariés sont censées accueillir des personnes handicapées à hauteur de 6%. Mmh. Nous, on est à 10%. On a valeur d'exemple, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on intègre le mieux possible avec des conditions de travail idéales. Enfin, on essaye du moins, d'accueil de public handicapé. Donc, c'est-à-dire que comme on est quand même dans le secteur, il faut qu'on soit force d'exemple, que ça fonctionne, et ce, sur tous les types de fonctions.
Pour clôturer, un mot de la fin ou un coup de gueule, pourquoi pas?
Non, on n'a pas de coup de gueule, on a surtout un gros travail à faire, parce qu'effectivement, le handicap en France, ça reste quand même un sujet un peu tabou. Ouais. Il faut quand même montrer tout le potentiel de toutes les personnes qu'on accompagne, dire aussi que nos établissements sont ouverts, ce sont pas, on cache pas les publics, on les accompagne du mieux qu'on peut, la société inclusive, on en fait totalement partie, et la question c'est maintenant comment on arrive à faire changer le regard des gens sur ces publics-là, sur ces personnes qui effectivement malheureusement ont été souvent un peu mises de côté, donc les remettre dans la vie, et surtout leur laisser aussi le choix. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup tendance à décider pour elles, et ben non. Elles sont actrices de leur vie, elles sont au cœur de leur projet de vie, elles sont comme vous et moi.
Y a-t-il un gros travail de fait au niveau communication pour changer le regard
personnes? on essaye surtout de dire que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne s'intéresse qu'au handicap. Hein. On a des travailleurs, on a des enfants qui sont à l'école. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut arrêter de regarder les personnes comme des personnes handicapées, mais les regarder comme des personnes qui ont un logement, ont un travail, vont à l'école. Voilà, c'est vraiment le boulot de la communication, effectivement, que d'essayer de un tout petit peu changer de regard. Alors, on est une association, on n'a pas non plus les moyens de faire des grandes campagnes publicitaires, mais on essaie d'y contribuer et de montrer, effectivement, toute la richesse qu'il y a à avoir une société plus ouverte et voilà, et plus, plus solidaire.
Merci Aude.
Merci de m'avoir écouté, accueilli.